Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 46e épisode de Torréfaction, notre rendez-vous hebdomadaire avec un petit round-up de l'info. Salut Caf.
Ça va Pasquier là?
Écoute, ça va bien, un peu speed ce soir, mais ça va.
C'est bien, c'est bien. Bah, c'est ça de faire ça à des horaires à peu près normaux, ça, on n'a pas l'habitude, il y a des trucs à faire dans la vie et... fait des efforts, je vous jure.
Allez, on va commencer avec le gaming. Tu voulais rajouter un truc sur Radical Heights dont tu as parlé sur Geekzone?
Alors, je voulais rajouter, non, je voulais en reparler un petit peu parce que tout le monde n'a pas lu cette fantastique news sur geekzone.fr, le petit site qui va bien. Non, parce que c'est rigolo, c'est encore donc la mode des Battle Royale qui continue de faire des petits. On sait pas finir, hein. Je vous annonce tout de suite qu'on va en bouffer un moment, un petit peu comme on en avait bouffé quand il y a eu la mode des MMO, quand il y a eu la mode des jeux de cartes à collectionner, quand il y a eu la mode des MOBA. Donc bon bah voilà, ça va être la mode, c'est assez rarement la mode des jeux de sous-marins par exemple, tu vois, c'est plus compliqué. Donc là on va se retrouver avec un nouveau jeu qui nous arrive de chez Bosque Productions. Qui sont ces gens, parce que finalement c'est un nom très peu connu à part chez les méga pros du jeu vidéo. C'est la boîte de Cliff Bezinski, alias Cliffy B, déteste qu'on l'appelle comme ça, donc on va l'appeler comme ça pendant toute la news. Qui est un monsieur qui a fait plein de jeux que vous connaissez, et le dernier vous le connaissez peut-être parce qu'il s'est planté lamentablement, qui s'appelle Lawbreakers, qui était c'est compliqué, j'ai pas envie de dire copie d'Overwatch mais un petit peu quand même, et une copie d'Overwatch pas moche mais ultra générique avec un design pas du tout inspiré. Ça s'est pas très bien passé. Les grosses vannes qui sortent en ce moment disent mais attendez, Radical Heights n'est pas le premier Battle Royale de Cliffy B, il y avait déjà Lawbreakers, ça a commencé avec 100 joueurs et maintenant il en reste un.
J'ai vu passer le truc tout à l'heure, oui, ça m'a fait beaucoup rire.
Voilà, donc ça s'était passé sur le compte parodique de Kazirai, l'ancien patron de Sony, qui est en fait un compte parodique, hein, je le redis, et ça a été retweeté par Cliffy en personne, qui a quand même pas mal d'humour.
Ouais, et de dérision.
Ouais. Voilà, fair enough, ok, c'est bon les mecs. Bien ouais. Donc comment ça se passe? Eh ben écoute, c'est assez rigolo puisque c'est un mélange de H1Z1 au niveau du gameplay, c'est très nerveux, ça va très vite, et de toutes les années 80, tous les trucs qu'on a détestés des années 80 ou qu'on a adoré. En fait, ça se prend pas du tout au sérieux. C'est un bear qui veut être encore plus dans la déconne que Fortnite. Il faut le faire.
Ah oui.
Et sans les constructions, ce qui m'arrange. Je déteste les constructions de Fortnite. Et du coup, on se retrouve avec un truc genre tu vas acheter un flingue et ben t'auras la musique de Top Gun dans les oreilles, etc.
D'accord.
C'est pas juste pour faire marrer la galerie, c'est aussi un cue auditif pour te dire, hey, il y a un mec pas très loin de toi, du coup tu vas te précipiter pour essayer d'aller le buter. Donc plutôt, il y a plein de petites bonnes idées comme ça.
Mais quoi, c'est Ready Player One the Game en fait ou
Alors c'est un peu l'idée, ouais. Ils ont un peu tout mis dedans. Alors je vous la fais rapidement, c'est un Battle Royale, il n'y a pas de bus, il n'y a rien, vous êtes droppé du ciel pour l'instant, et vous allez arriver directement sur le sol avec une petite phase de planning, planage. C'est vrai qu'en français, c'est un peu nul de le dire comme ça. Mais donc, vous pouvez planer pour aller dans l'endroit qui vous intéresse le plus sur la carte. Vous pouvez voir, j'ai mis plein d'infos dans la preview que j'ai écrit sur Geekzone, qui est moins brouillon que ce que je suis en train de vous raconter. Je suis désolé. Mais
moi, je comprends tout. Il n'y a pas de souci.
Pour la faire très simple, et il y a plusieurs infos à retenir. La première, c'est que c'est en ce qu'ils appellent Extreme Early Access. La vraie raison, c'est que, en gros, c'est fait sur les deniers du bon Cliffy B. Donc là, cette fois, il n'y a pas de gens pour lui donner des sous, tout ça. Donc, c'est un peu plus compliqué. Je pense qu'il voulait rentrer de l'argent très, très vite, vu que Lawbreakers n'en a pas rapporté du tout. Et il se retrouve à sortir le jeu très, très vite dans un état pré-alpha, pré-bêta. Je sais pas trop comment on peut le définir, mais il manque des textures. C'est pas optimisé. Il y a plein de trucs moches. Le code réseau part en live un peu tout le temps. Il manque plein de trucs dans le jeu. Et la sortie réelle de la 1.0 n'est pas prévue avant 2019.
D'accord.
On vous balance le jeu maintenant avec un pack fondateur qui coûte genre 13 balles et le jeu est en free to play. Donc on est, le pack fondateur, on n'est pas en train de parler des packs fondateurs entre 40 et 100 balles de Escape from Tarkov. Donc 13 euros, c'est un petit peu c'est vraiment, vous mettez un petit peu dans le panier en osier en disant moi il m'intéresse ton jeu Cliffy, vas-y développe le. Non, franchement, je
fais pas ton Chris Roberts,
c'est ça. Il y a plus de trucs dans Star Citizen, donc c'est pas grave. Non, j'y ai joué, je l'ai poncé un peu mercredi soir. Et je me suis régalé. J'étais un petit peu étonné parce que, Il y a des trucs où tu te dis, sur le papier, ça va être un peu les gimmicks. Genre, tu peux conduire et faire des tricks en BMX. Il n'y a pas de voiture dans le jeu, t'as un BMX avec des pompes de BMX dans les trucs un peu cosmétiques. Enfin bref, les mecs sont partis dans un gros, gros délire. Mais en fait, c'est super bien foutu. Tu peux te balader sur la carte hyper vite avec ce BMX. Tu peux effectivement faire des tricks. Et évidemment, c'est buggé jusqu'à l'os. T'as le vélo qui va disparaître dans la route de temps en temps quand tu le lâches. Enfin, bon, on est habitué à ce genre de trucs. Mais bah, du coup, allez le tester parce qu'en fait, il fait 2 giga 2 à télécharger, il s'installe avec 4 giga. Il y a évidemment, donc je le redis, plein de bugs et plein de features qui ne sont pas terminées, mais il y a plein de sites qui ont écrit assez en disant que c'était vraiment pas terrible. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir une certaine sympathie pour ce jeu, déjà parce que voilà, mon grand âge, les années 80, ça me parle. Et l'autre truc, c'est que je trouve qu'il y a des bonnes idées du côté gameplay. C'est ce que tu voulais me faire dire au début de cette intervention, c'est qu'effectivement, ils ont rajouté des trucs genre la roulade, donc tu peux faire sauter ton personnage, mais tu peux aussi la faire dans les airs, donc du coup tu peux sauter de balcon en balcon sur les immeubles quand ils sont côte à côte par exemple.
D'accord.
Donc, tu vas sauter, tu fais ta roulade dans les airs et bim, ton perso va se projeter et va arriver sur l'autre balcon. Tu peux faire plein de petits moves comme ça que tu ne trouves pas dans les autres jeux, et pour comprendre tout le système économique, je vous renvoie vers la news parce que je n'ai pas envie de le réexpliquer dans le podcast, mais très honnêtement, c'est pas débile, ça se teste. Là, alors, en revanche, comme le jeu vient de sortir, évidemment, on commence à détecter quelques cheats.
Ah.
Oui, c'est la dure loi des jeux du style, hein. Sur les Battle Royale, le cheat est roi. Souvent, il y a trop de business à se faire autour de ça. Donc, bon, là, ils ont pas un système de loot box, etc. C'est des trucs que tu achètes comme dans Fortnite. Mais il y a pas de revente. Du coup, ça devrait limiter la casse. Mais il y aura toujours des mecs qui ont besoin de se prouver qu'ils sont meilleurs que les autres. Quitte à, comment dirais-je, avaler des petites pilules ou installer des logiciels. Voilà.
Radical Heights. Donc, on vous renvoie à la news qui a été publiée cette semaine sur Geekzone. C'est plus ou moins gaming, mais comme on avait déjà parlé, je voulais refaire un petit point sur la situation de la grève chez UGN System. On en avait parlé il y a quelques semaines, 8 semaines maintenant. Ça portait donc sur des salaires qui avaient été revus un peu au rabais, mauvaise gestion des heures sup, enfin il y avait plein de revendications qui ont amené donc une partie de la boîte à se mettre en grève. Ça a un peu coupé le studio en deux pendant plusieurs semaines. Le studio a continué à fonctionner, à sortir des patchs, etc. Mais de l'autre côté, bah, t'avais des employés qui se croisaient les bras. Ça devait foutre une bonne ambiance. Finalement, les grévistes ont baissé les bras le 3 avril dernier. Pas parce qu'ils ont obtenu des résultats, mais parce que ça devenait difficile à tenir financièrement. Ils ont promis qu'ils allaient continuer à se faire entendre. Ils ont rappelé leurs revendications complètes dans un communiqué qui a été publié le 16 avril. Donc, si vous voulez jeter un coup d'œil à ce qui se passe chez Gen System, c'est là que je vous renvoie. Pour le reste, on les soutient encore toujours. On est content de savoir qu'ils vont pouvoir recommencer à bosser et gagner un peu des sous. Mais voilà, c'est une situation un peu étrange et toujours pas résolue. Donc, c'est maintenant au prud'homme de décider ce qui va se passer. Et là, ça risque d'être un petit peu plus saignant. Je sais pas ce que t'en penses, mais voilà.
Rien. C'est des situations hyper compliquées. J'avoue que j'ai absolument pas creusé sur ce qui se passait vraiment à l'intérieur. Enfin, c'est difficile quand t'es pas dans la boîte.
Ouais.
Donc voilà, ce sont des situations que je suis de loin, mais là pour le coup, je suis un petit peu powerless.
Ouais. Et on va revenir sur le gaming vrai, pur et dur avec Dauntless.
Ouais, alors c'était juste pour vous annoncer que cette copie de Monster Hunter en free-to-play sur PC, où nous n'avons pas encore Monster Hunter qui devrait arriver à la fin de l'année, mais en attendant, les gens rongent leurs freins. Donc Dauntless va sortir en open beta le 24 mai. C'était prévu pour un petit peu plus tard. Je pense qu'il se speed à mort pour surfer sur la vague du succès de Monster Hunter sur console et du coup la frustration des joueurs PC. Juste pour remettre dans le contexte, c'est un jeu beaucoup moins complet que Monster Hunter, mais du coup ça peut aussi intéresser les gens. C'est juste aller faire un groupe avec ses potes et aller flinguer du monstre sur des petits îlots où on va trouver la bestiole quasiment directement. Il n'y a pas de monde ouvert, enfin semi-ouvert, un petit peu comme on peut l'avoir dans Monster Hunter actuellement. Du coup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Après, tout le sel du jeu, c'est vraiment les bastons avec le mob et comprendre un petit peu ses patterns de combat, etc. Donc, pour pouvoir l'éclater le plus vite possible, j'ai un petit peu peur que ça manque de monstres et que ça soit un petit peu répétitif. Mais bon, voilà, j'avais dit la même chose de Monster Hunter et on sait ce qui s'est passé. Non, moi, je vais attendre la sortie de Dauntless avant de dire des conneries.
Prudent le caf.
Je fais très attention maintenant avec ce jeu.
Allez, on passe du côté des apps avec une première app au nom bien rigolo, tiens, Taskade.
Taskade, oui, alors qu'est-ce que c'est donc? Alors ça m'a fait marrer parce que je suis tombé dessus un petit peu par hasard il y a 2 jours. C'est un nouveau soft, vous savez, il y en a 1 milliard et nous on adore les softs de gestion de liste, on n'aime pas trop faire les trucs là-dedans, mais par contre on est hyper fort pour tester les Microsoft de gestion de projet, les Todoist et compagnie. Nous, on se régale de ces trucs-là. Bon, après, quand faut travailler, c'est un peu chiant, mais bon, bref. Du coup, Tasked, c'est un soft de gestion de liste qui se place dans la catégorie des softs ultra simplistes, qui se veulent juste jolis. Mais d'habitude, on se retrouve avec des trucs extrêmement limités, c'est-à-dire uniquement pour sa gueule. C'est généralement sous forme d'app iOS ou Android, et vous pouvez rentrer des bullet lists. Et puis finalement, ça fait pas grand-chose de plus que les logiciels installés par défaut, genre sur iOS avec le To Do d'Apple. Bon, bah, on s'en sort directement. Il n'y a pas besoin d'installer quoi que ce soit d'autre. Tasked va un peu plus loin. Déjà, ils ont fait des gros efforts sur le look du logiciel. On se retrouve avec quelque chose de vraiment mignon, customisé. On peut mettre des petites icônes, on peut changer les couleurs, on peut surligner les titres de trucs. Et donc, ça permet de faire des listes de choses à faire, alors des listes à cocher, des listes numérotées, etc., etc. Mais surtout, on peut faire des groupes et inviter des gens dedans. Alors, ils ne sont pas pris la tête à faire des droits d'accès hyper compliqués. Par contre, tu peux donc envoyer une liste de courses à quelqu'un, un pote, etc., pour préparer une soirée, et tu peux lui donner les droits d'édition ou pas. C'est-à-dire qu'il peut juste consulter la liste pour savoir où ça en est, ou cocher lui-même des choses dessus, en rajouter, etc., etc. Donc, tu as vraiment le mode lecture seule et le mode édition, un peu comme avec Google Doc. C'est pas très compliqué. Et ça a une bonne tête, mais je le redis, c'est vraiment le niveau zéro, entre guillemets, de la gestion de liste. Il n'y a pas de date, par exemple. Il n'y a pas moyen de faire des trucs compliqués. Pour ça, on a découvert un autre soft dont on va vous parler la semaine prochaine, mais on se laisse un petit peu de temps parce qu'il est vraiment très bien et on a vraiment envie de prendre le temps de faire le tour du truc. Mais du coup, le domaine continue d'évoluer. Je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Et effectivement, parce que tous ceux que j'avais testés, bah, à chaque fois, je me disais,
il manque des choses. Il manque des trucs.
Et il y avait vraiment des conneries sur des ténors du genre. Hein, donc, ça me fait plaisir de voir que ça continue d'évoluer, y compris donc en bas de l'échelle de complexité du truc avec Tasked. Je vous conseille d'essayer. C'est gratos. Ça existe sur iOS, sur Android et en version web, ce qui est ultra rare sur ce domaine justement, donc c'est plutôt une bonne nouvelle.
Et une petite news app pour terminer cette rubrique en vitesse avec Skype qui n'est pas mort, qui bouge encore.
Mais ouais.
On va pouvoir enfin, ça y est, enregistrer ces sessions Skype vidéo et audio. Ils se sont réveillés quelque part chez Skype.
Après.
Ouais, c'est ça, après tout le monde. Alors en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire le communiqué est un peu flou. On n'a pas beaucoup de détails encore sur comment ça va être mis en pratique, en dehors du fait que ça va fonctionner avec ce qu'ils appellent donc la norme NewTek NDI. Qui est une norme, alors je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est de la production live over IP. Donc t'as des softs comme XSplit par exemple qui permettent de récupérer ces flux et de les intégrer donc dans un broadcast plus large avec des intervenants, etc. Et donc on pourra aussi a priori, d'après le communiqué, récupérer ces flux dans des softs d'édition comme Adobe Premiere Pro et Adobe Audition. L'info qui manque et qui est quand même relativement importante, c'est de savoir si on pourra faire du multipiste, donc récupérer les pistes audio et les pistes vidéo séparées pour refaire derrière un montage un peu propre, égaliser les niveaux des différents intervenants, etc. Ou même en live, hein, ça peut être intéressant aussi. Donc ça, on n'a pas l'info et c'est quand même un peu le nerf de la guerre. On travaille, nous, pour info, sur un soft qui s'appelle Mumble pour enregistrer nos podcasts et c'est pas du tout un soft qui est prévu pour ça à la base.
Le vénérable Mumble.
Voilà, donc il y a un vrai manque sur le marché et ça serait pas mal que Skype se réveille un peu parce qu'en plus, leurs algos de compression, de transmission, etc. sont plutôt cool. Moi, je les préfère à ceux de Mumble. Bah voilà, ils ont fait la démo de cette version donc, qui s'appelle Skype for Content Creators au NAB, au National Association of Broadcasters. C'était il y a quelques jours. Il n'y a pas de date de sortie pour le moment. Ils annoncent une version utilisable cet été pour Windows 10 et macOS. On attendra de pouvoir tester pour voir si ça vaudra vraiment la peine ou si ce sera juste un pont pour juste transférer votre flux global Skype vers un soft de mix. Nous, ce qu'on veut, c'est surtout de pouvoir récupérer les pistes séparées. Et là, ça serait une petite révolution. Bref, on va passer à la culture. On va parler d'un film qui nous a tous les deux surpris, hein, Kaf.
C'est ça.
Qui a surpris tout le monde, en fait. Même Sony a été surpris. On va parler de Jumanji Welcome to the Jungle, un film de Jake Kasdan donc, qui est sorti chez Sony. Gros carton, mais alors complètement inattendu. Pour rappel, donc, c'est la suite du Jumanji de Robin Williams, enfin avec Robin Williams de Joe Johnston qui était sorti en 95. On vous fait pas le pitch, hein, vous le connaissez. Là, ils en sont à $1 milliard au box-office pour un petit budget de $100 millions. Donc je pense que c'est ce qu'on peut appeler un carton.
La rentabilité, ouais, sans pression.
C'est pas mal. Du coup, Dwayne Johnson flash et il a annoncé que bah ça y est, le 3 est en chantier. On n'a pas plus d'infos pour le moment, mais donc apparemment un troisième Jumanji. Alors pourquoi est-ce qu'on voulait en parler? Parce que nous, franchement, on vous recommande de le mater. Hein. On l'a vu tous les deux et on a été pour le moins agréablement surpris.
Bah surtout que moi je le matais en me disant ça va être de la merde, mais j'ai mes soirées cinoches un peu pourries où je regarde des trucs où je sais que ça va être naze, mais je suis en mode célibataire et je me dis ma femme ne voudrait pas le voir, ce n'est pas grave. Et bah là, manque de bol, il est vraiment drôle, il est ultra bien réalisé, l'histoire avance hyper de manière hyper logique, ce qui est rare dans ce genre de truc, et j'ai pas trouvé de défaut. Il y a plusieurs niveaux de lecture et j'étais hyper hyper impressionné par ce qu'ils avaient réussi à faire en termes d'écriture, tout bêtement. Alors que dans ce genre de film, généralement, c'est super nul.
Il est plus smart qu'il en a l'air, en fait. Moi,
exactement.
J'ai trouvé. T'as des réflexions, comme tu dis, qui sont un peu sous-jacentes, mais il y a des trucs vraiment intéressants. Ouais.
Donc moi, du coup, j'étais hyper impressionné. En plus, j'ai découvert des acteurs, des nouvelles têtes. Hein. Moi, en tout cas, il y en avait plein que je connaissais pas. Et puis, nous avons The Rock. Et
mais
puis
oui.
mon chouchou, mon petit chouchou d'amour, Jack Black,
qui est fantastique,
qui est extraordinaire. Et pourquoi il est extraordinaire? Parce que vous voyez pas, on vous spoile pas, c'est dans les 5 minutes du début du film.
Ouais.
Mais c'est une blonde qui se retrouve dans le corps d'un explorateur qui est en fait Jack Black, et c'est une énorme poufiasse à la base. Et c'est magique puisqu'on a donc Jack Black qui explique à un moment une nana comment défiler, comment séduire les hommes. Donc, imaginez Jack Black en train d'essayer de vous expliquer comment séduire un homme en se pensant dans sa tête que c'est une blonde hyper bonasse, ça donne des trucs assez improbables. Voilà.
Comme Jack Black qui dévore des yeux The Rock, ça j'ai trouvé ça assez
fabuleux. C'est magnifique, c'est magnifique. Non mais
now that's a man.
Non, franchement, ça détend, regardez-le, c'est une excellente surprise et ça m'étonne pas du tout qu'il fasse le troisième, du coup. Et moi, en tout cas, The Rock est sur une bonne lancée. J'ai même vu des critiques qui étaient pas si nulles pour Rampage, figure-toi.
Ah bon?
Donc, les mecs disent, c'est nul, c'est hyper basique, au moins, il y a du Rampage, quoi. On est là pour ça, ils pètent des immeubles, qu'est-ce qu'il y a? je pense que le mec a trouvé son créneau.
Et on va passer à un truc un peu moins délire, c'est le début de la saison 3 de The Expanse.
Yes!
Ça a commencé cette semaine, premier épisode sorti.
Ouais.
Alors on rappelle, café plus qu'enthousiaste. On dirait Jack Black quand il voit The Rock. C'est sur Sci-Fi, donc on en a déjà parlé sur Geekzone à l'époque où c'était sorti. Parce que moi j'étais passé complètement à côté. C'est toi qui m'avais pointé du doigt.
Pour une fois.
Voilà, cette bonne série, donc adaptée des romans de James S.C. Corey. Alors on rappelle que James S.C. Corey, c'est un pseudonyme, c'est un nom de plume, et que derrière en fait il y a un duo composé de Daniel Abraham et Ty Frank. Ils avaient remporté le prix Hugo en 2012. Pour le premier volet de la saga. Le pitch, c'est quoi? C'est dans un futur relativement proche, environ 200 ans, je dirais. Les humains, ils ont colonisé tout le système solaire. Et il y a trois factions principales. Il y en a une sur Terre, une sur Mars, et il y a ce qu'on appelle la ceinture, The Belt.
Ouais.
Mars, c'est plutôt l'endroit où les riches vont, ça prospère, tout se passe bien. La Terre s'appauvrit de plus en plus. Enfin, en tout cas, au début, c'est comme ça que ça s'est présenté.
Mars, c'est surtout les mecs super militaires et qui sont obligés de s'organiser pour... qui sont un peu les durs de la bande, quoi.
Et sur la Terre, c'est un peu les pauvres, les gens qui n'ont pas vraiment de ressources et qui sont un peu exploités. Et puis aussi les malheureux habitants de la ceinture au milieu qui donc sont exploités par tout le monde. Donc tout va bien. C'est une série qui mélange science-fiction, investigation. C'est très, la narration est très particulière. On suit plusieurs arcs différents au début qui n'ont pas l'air d'être liés. Et puis au final, tout ça s'entremêle évidemment de manière assez organique. Il y avait une première saison de 10 épisodes, une deuxième saison de 13 épisodes. Et là, on est reparti pour 12 épisodes. Donc si vous cherchez une bonne petite série de SF intelligente avec vraiment une attention au personnage, au relationnel entre le personnage, c'est aussi une série d'intrigues diplomatiques, donc c'est, à ce niveau-là c'est plutôt cool.
Et attention, je te coupe, mais la saison 1 elle est un peu plus lente, ne vous laissez pas berner, accrocher votre ceinture, parce qu'après ça va aller assez vite, quoi.
Ça pète dans la saison 2, ouais. On va rester sur la culture, je voulais parler d'une petite affaire qui fait un peu de tâche là au Festival de Cannes. Netflix a décidé de se barrer. Alors on se souvient que Netflix était arrivé en grande pompe l'année dernière au Festival de Cannes, c'était un peu l'annonce événement de l'année dernière, et puis en fait ça a pas plu à tout le monde manifestement. Il y a les distributeurs français qui ont trouvé que c'était pas cool, et donc il y a une nouvelle règle qui a été implémentée cette année, donc par le directeur artistique du Festival de Cannes qui s'appelle Thierry Frémaux, qui a annoncé donc que pour que les films puissent entrer en compétition, ils devraient être distribués en France. Donc c'est un gros souci évidemment pour Netflix, parce qu'on sait qu'en France il y a la fenêtre entre la date de sortie en salle et le streaming, qui est de 36 mois, si je dis pas de bêtises, et que forcément, pour Netflix, bah, ça les intéresse pas de venir présenter des films qui sortiraient en salle en France et qui seraient donc privés de streaming pendant 36 mois. Donc, bah, Ted Sarando, c'est pas content, et finalement, bah, il a décidé de pas venir. On avait dit à Netflix, si vous voulez, vous pouvez venir présenter vos films, mais ils seront pas en compétition officielle, parce qu'on estime que, bah, voilà, vous avez pas le droit d'entrer en compétition, vos films sont pas des vrais films. et Ted Sarando, ça a dit, bah, si c'est comme ça, moi, je prends toutes mes petites affaires et je me casse. Donc voilà, ça fait un peu grand bruit en ce moment autour du festival. Ça rejoint un peu des déclarations qu'a fait Steven Spielberg il y a pas très longtemps. Je crois que c'était chez Variety, le site impossible à prononcer, où il disait à peu près la même chose, mais par rapport aux Oscars, où il disait que pour lui, les films qui étaient produits par les sociétés de streaming comme Netflix n'avaient pas le droit d'entrer en compétition aux Oscars parce que c'était pas des vrais films, en gros. Je paraphrase un peu le propos, mais c'était l'idée. Donc voilà, est-ce qu'il y aurait une sorte de snobisme du vieux cinéma par rapport au nouveau cinéma? Alors, on sait que Netflix produit à la chaîne et que c'est pas forcément toujours qualitatif, mais est-ce que c'est pour autant qu'on doit pas considérer leurs films comme de vrais films, vu les budgets mis?
Et puis ça se saurait que si le ciné du cinéma c'était toujours qualitatif, hein, je veux dire,
voilà,
en plus. Se foutre de la gueule du monde deux minutes, les mecs sont vraiment en train de défendre leur beefsteak et leur truc, enfin c'est un combat d'arrière-garde, mais ça, ils le paieront un jour,
voilà.
C'est tant pis pour eux, ils seront très contents de trouver les thunes de Netflix pour faire leur vrai film un jour.
Bref. Bon, Sarando c'est pas très inquiet, hein. Il dit que a priori il pense que le festival va revenir sur sa décision, si pas cette année, en tout cas dans les années futures.
C'est évident.
Ils seront ravis de revenir présenter leur film à ce moment-là et que ça les empêchera pas de distribuer sur Netflix des films qui auront gagné des palmes d'or. Donc voilà, c'est un peu la bisbrouille en ce moment entre Netflix et le festival de Cannes, mais voilà, tout devrait s'arranger a priori d'après Ted Sarando, s'il est plutôt confiant. On va passer du côté de la tech avec des news d'un patent troll encore un.
Ah, alors c'est un très connu, hein. C'est rigolo.
C'est un spécialiste.
C'est un spécialiste. On en entend parler depuis très longtemps et l'affaire qui nous occupe dure depuis 2010, figure-toi. C'est un procès contre Apple qui se fait emmerder sur différentes technologies, dont FaceTime, qui permet de passer des appels vidéo ou audio directement en passant par le net. C'est une technique qui en fait exploite le VPN. Du coup, les mecs ont un brevet ultra large et mal foutu qui englobe les technos du VPN. C'est un truc descriptif, hein, c'est pas du tout technique. C'est une boîte qui ne fait rien de sa vie, faut le dire. Ils ont juste des brevets un peu obscurs comme ça qu'ils essayent d'activer pour gagner du fric contre des boîtes qui ont utilisé des technologies un peu similaires. Mm-hmm. C'est le principe même du patent troll. Donc la boîte en question s'appelle Virnetics et vous allez lire plein de news débiles partout par des journalistes qui n'ont pas pris le temps de faire les trucs correctement, qui vous disent « Oh là là, Apple doit payer 500 millions !» à cette boîte. C'est vrai, il y a un jugement dans une bonne cour du Texas qui a décidé qu'il devait payer 500 et quelques millions pour l'utilisation de ce putain de brevet. Le truc qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont été condamnés plusieurs fois depuis 2010 rapport à ce brevet. À chaque fois, ça saute en appel. C'est ce qui manque, en fait, dans plein de news. C'est de dire, en fait, Apple va jamais payer, les mecs. Ce qui va se passer, c'est que bah, du coup, ils vont continuer de combattre ce brevet. Et là, actuellement, tout le brevet, même l'existence du brevet, est remise en question. La validité, en fait, du brevet est remise en question et devrait sauter sous peu, puisqu'il y a des nouvelles lois qui sont mises en place aux États-Unis pour essayer justement de contrer ces mecs hein, qui sont juste des parasites au niveau technologie. Tu peux pas continuer d'évoluer, tu peux pas continuer d'innover avec des mecs comme ça sur le dos. Et du coup, les mecs ont moins de thunes qu'un Apple, par exemple. Forcément, c'est compliqué. Alors évidemment, après l'annonce du jugement, leur action à Virnetics, elle a pris 44%. Bon, elle est à $4, hein, ça va vite, on va dire. Mais il faut savoir que cette boîte est à 176 millions de pertes. Donc on va dire que c'est un business model qui ne marche pas beaucoup quand même. Hein. Ils ne gagnent pas souvent, mais quand ils gagnent, ils essayent de gagner très gros. Donc j'espère qu'ils vont mourir très très vite, a priori, si ça continue comme ça. Et si le brevet est invalidé, il y a un jour, ils vont bien finir par claquer. Mais quand vous lisez les news comme ça, que ça concerne Apple ou d'autres, avec des patent trolls, n'oubliez jamais que généralement il y a Apple derrière et qu'ils perdent les trois quarts du temps. Les procès, il y en a évidemment qui ont été gagnés, hein, sinon le truc n'existerait pas. Il faut savoir que tous ces procès ont lieu dans des cours obscurs du Texas avec des juges que je m'abstiendrai de leur donner des petits noms. Mais du coup, ces cours-là commencent à être en fait impraticables pour les patent trolls, puisque tu dois maintenant faire les procès dans les zones par exemple, la société, si ta boîte, si t'attaques une boîte de San Francisco, bah, tu vas aller faire ton procès à San Francisco.
Et là, ça rigole moins.
Et là, ça va moins rigoler pour toi. Donc voilà, faut suivre au sable. Les États-Unis essayent de faire le ménage là-dedans. C'est pas gagné, mais en tout cas, ça avance. Hein.
Alors, c'est pas les patent trolls, mais parfois, on se demande s'ils nous trollent pas un petit peu. Twitter fait encore nawak.
Oui, alors, avec ses API, qu'est-ce que c'est? C'est les trucs sur lesquels se branchent les applications tierces pour vous offrir, bah, accès à Twitter avec des fonctionnalités avancées. On pense à Tweetbot, à Twitterific sur Mac et iOS. Il y en a plein sur Android, etc. Les utilisateurs avancés dans notre genre n'utilisent jamais Twitter, il faut le savoir, via le client officiel, qui est une merde sans nom par rapport à ces softs-là, et le site web, qui est deux fois une merde sans nom. L'application, elle est bien à côté du site web, c'est vous dire. Donc, les mecs, ça les arrange pas, parce que ces applications tierces n'affichent pas les pubs, par exemple. Donc, bah, pour eux, c'est pas pratique. Et quand bien même ils pourraient afficher des pubs, bah, c'est le premier truc qu'un vendeur d'applications tierces vous ferait sauter en disant, bah, regardez, grâce à mon application, vous avez pas, vous fadez les pubs. Donc, je sais pas, sachant que Twitter dit, bah, c'est un pourcentage extrêmement faible, on parle de moins de 10% d'utilisateurs qui sont sur ce genre d'application. À ce moment-là, bah, très bien, foutez-leur la paix, hein. Il est où le problème? Non, non, du coup, on va quand même emmerder tout le monde. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils vont changer leur API. Le changement de cette API, c'est il y a une vieille en fait qui va disparaître, qui permet à tous les logiciels actuels de fonctionner, et il y en a une nouvelle mieux, enfin en tout cas c'est ce que Twitter dit,
mieux R guillemets,
R guillemets autour du micro, qui en fait est absolument pas mieux du tout et qui surtout n'a pas été présentée aux mecs qui font les logiciels en question. Donc ils n'ont pas essayé, ils n'ont pas accès. Ils savent pas combien va leur coûter cet accès. Si les applications Twitter sont si chères, c'est parce que faut pas oublier que ces gens payent à Twitter l'accès à des tokens, en fait, pour pouvoir utiliser l'API. Donc, ne peuvent pas se brancher au service de manière gratuite. Hein. C'est absolument pas possible. Et bah, il nous manque plein d'informations. Mais du coup, il y a un site web que je vais vous linker qui s'est mis en place pour dénoncer ça et puis vous donner un petit peu les actions à entreprendre pour faire pression sur nos amis de Twitter. du coup, Twitter ayant senti que le vent tournait un petit peu de ce côté-là, ils ont changé la date. À la base, ça devait s'arrêter le 29 juin, je crois. Et là, ils ont dit, ah, ok, d'accord, on va repousser la date pour laisser le temps aux gens de voir à quel point notre nouveau truc est extraordinaire. Ce qui est toujours totalement faux. Il manque, genre, le premier truc que ça fait sauter, c'est la mise à jour en temps réel de la timeline. Donc, c'est un petit peu compliqué puisque c'est un des avantages de Twitter en général. Et du coup, bah, les applications tierces qui n'auraient plus ça n'ont plus vraiment d'intérêt. Donc ça va être très très compliqué, on va voir ce que ça donne, mais bah, y a pas mal de gens, dont moi, qui je pense préféreront se barrer de Twitter que d'utiliser le service avec les outils par défaut, qui sont pourris, et les mecs ont toujours pas compris pourquoi on les trouvait pourris, donc ça risque pas d'avancer.
Et on va passer du côté de chez Samsung, où on fait un peu nawak avec les actions, là.
Alors ouais, Samsung Securities, donc c'est la partie boursière de Samsung. Alors ça m'a fait marrer, ça c'est de la bonne news qui permet de se détendre en fin de podcast, tu vois. Il y a un comptable qui a fait une bourde à 85 milliards d'euros, les gars. 85 milliards, je ne me plante pas hein, quand je le dis. C'est-à-dire que le mec a fait très très fort, au lieu de verser à chaque salarié, donc il y en a 2000 hein, chez Samsung Securities, au lieu de leur filer une prime, accroche-toi, la prime elle était de 1000 won, ça fait 0,76 euros,
hein.
Ouhou, la prime de la ouf. Et il y a un comptable qui a trouvé que c'était pas assez, il a donné 1000 actions de l'entreprise à chaque employé.
Oups.
Donc, oups, parce que donc ça fait un paquet de fric, 85 milliards, je viens de vous le dire, mais la blague dans l'histoire, c'est qu'il y a 16 mecs bah, qui dormaient pas, et qui ont reçu les actions, et qui ont fait genre, trop merci, et qui les ont vendues. Instantanément.
Bah tiens.
Donc, ces 16 employés, quand même, totalisent un niveau de revente, ils se sont fait 150 millions d'euros. Hein.
Nice.
Évidemment, ça ne va pas se passer comme ça. Il y a des actions qui sont entre, au moment où je vous parle, les mecs savent pas trop sur quel pied danser, mais Samsung Securities, c'est une boîte qui gère des portefeuilles pour d'autres sociétés. Et, bah, ces autres sociétés ont déjà décidé de se barrer, en se disant, bah, si vous êtes capable de faire des conneries pareilles, excusez-nous de pas avoir confiance. Donc là, il y a a priori un petit train qui est en train de s'en aller. Je vous parle pas de l'employé qui est au chômage, à mon avis, alors qu'il est, parce que là, je pense qu'il une petite convocation, la réprimande.
Trop recommandée, ouais.
Voilà. La réprimande ne sera pas suffisante parce que là, mais peut-être faut les laisser dormir, hein, les employés, à un moment, parce que voilà ce que ça donne. Et les mecs sont en train d'essayer de voir comment ils peuvent attaquer les employés indélicats, entre guillemets. Et les mecs se disent à quel moment c'est pas une arnaque aussi, tu vois. À quel moment les gars c'était pas de mèche, etc. Donc, j'attends de voir ce que ça va donner, mais en tout cas, bon, voilà. Moi, la bourde à 85 milliards, je trouve ça énorme. Pensez à votre erreur de caisse de 20 centimes. Bah, Dites-vous que quand il y a des mecs qui s'endorment sur leur clavier, ça donne 85 milliards, ça calme.
Un beau bordel. Slow clap pour Samsung Securities, là, quand même, parce
bravo.
Que c'est
joli. Ah ouais. Moi, tu m'entends, on voit pas comme ça souvent.
Hein. Allez, on a le temps en vitesse pour un petit round, ça.
On va me dire, oui, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est de la merde.
Alors un petit round vite fait, vous vous rappelez de Thomson? Vous savez cette boîte qui faisait le TO7 et qui essayait déjà de vous faire détester l'informatique dans les années 80?
Même ça part fort.
Alors là, tu vois, Thomson, les mecs, le fleuron de l'informatique française, hein, je les déteste depuis tellement longtemps, tu vois, je les déteste parce qu'ils n'ont jamais fait une machine que je trouve vaguement potable, c'est un scandale. Je hais le TO7 parce que c'était déjà dans les années 80, tu voyais le truc, tu te disais, je crois qu'on non. prend pour un con en fait, je crois que ce clavier c'est vraiment de la merde. C'était même pas des claviers, c'était des surfaces sensitifs, tu sais, avec des petits plops là, il y a des claviers horribles, les trucs en plat en fait, c'était absolument insupportable. Et du coup, bah là, ils font un truc assez rigolo, ils sortent un nouvel ordinateur, dis donc ça s'appelle le Thomson Neo 10, qui a eu des articles dithyrambiques dans deux trois trucs plutôt économiques de notre beau pays. Et en fait, bah non, mais n'achetez jamais cette merde, les gars, hein. C'est un netbook no name de 2012. Chinois, qui a été rebrandé par nos amis de chez Thomson, qui t'explique que mais c'est pas cher, c'est 99€ pour commencer l'informatique. Alors non, ça va pas te faire commencer l'informatique.
Ça va
te faire détester l'informatique. Ça ne sert à rien. C'est lent dans tous les cas de figure et ça sera de plus en plus lent. Donc c'est vraiment, mais de la merde. Je ne comprends même pas comment les mecs osent sortir ça et comment les gars de chez Thomson s'affichent devant le truc en disant oh, écoutez, c'est vachement bien et tout. Donc Thomson Computing, écoutez, je pense que ça n'a plus grand chose à voir avec la boîte des années 80, nous sommes bien d'accord. Mais quand on a une marque comme ça, essayer un peu de la respecter, c'est un peu comme les mecs qui se disent étant d'Atari, tu vois, bon, ça n'a plus rien à voir d'Atari, alors Thomson a peut-être plus de liens, mais quand même, respectez-vous un minimum. Cette news, je la tire de chez notre ami de minimachine.net, je vous mettrai le lien sur le billet qui accompagne ce blog parce qu'il explique toute l'histoire, et il est encore plus vénère que moi, je crois, c'est quand même pas facile parfois, donc bravo à lui, et non, franchement, n'achetez pas ce genre de saloperie, préférez même mais une tablette chinoise
que dire, ouais.
Plutôt que ce genre de truc, et il y a des machines encore qui sortent aujourd'hui sur cette gamme de prix à 150-200 balles, que vous pouvez trouver sur Gearbest, etc., où vous pouvez choper vraiment des petits PC qui tiennent à peu près la route, mais pas un truc de 2012. Nous sommes en 2018, les gars. Il faut mettre ça à la poubelle. C'est fini. Le recyclage, ça sert. Donc, évitez ce genre d'arnaque. Merci.
Et c'est la fin de ce 46e épisode de Torréfaction. On se retrouve la semaine prochaine dès 9h pour une nouvelle sélection d'infos. Et puis nous, on va aller se faire un petit week-end peinard, ou est-ce qu'on va bosser? Je sais pas, tiens.
Non, on va travailler. Et tu te rappelles les softs de gestion de tâches dont je te parlais là? On a plein de trucs à mettre dedans et il faut qu'on fasse un truc. Je crois que ça s'appelle, un planning. Non, ça va être compliqué. Hein. La semaine s'annonce compliquée. En plus, on a essayé de prendre un truc qui s'appelle des vacances, je crois, pour le mois de mai. Oh, c'est un bordel.
Bon, allez, on va essayer de souffler quand même un petit peu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Torréfaction. Salut, Caf.
Ciao, ciao.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Je t'explique pas comment parle dans un micro, j'imagine que tu sais.
Pas trop près, pas trop comme ça.
Là, comme ça, c'est très bien.
Bon.
Chin.
La tienne.
Écoute, en tout cas, merci d'être venu.
C'est un plaisir. Hein.
Dans le canap, c'est votre rendez-vous mensuel sur Geekzone, un rendez-vous durant lequel Faskill s'entretient avec un invité, sans fil conducteur, sans questions préparées, mais avec des bières. Pendant environ une heure, posé au calme dans un confortable canapé, on y parle de son parcours, de son actu et parfois aussi du sens de la vie. Dans le canap, alias DLC, c'est tous les mois exclusivement sur geekzone.fr.
En fait, il faudrait que tu sois ton invité un jour. Ce serait marrant que t'aies des gens proches de toi qui te connaissent bien, qui fassent la même chose. Et les gens, ils kifferaient.